La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Francesca à l'animation. Ce soir, je vais vous parler d'un phénomène qui inquiète les entreprises et qui impacte aussi l'économie, l'absentéisme au travail. Selon les dernières données du Datascope 2025 d'AXA, l'absentéisme en entreprise est à un niveau critique. 4,5% de taux d'absentéisme, un niveau aussi élevé qu'en pleine crise sanitaire. C'est plus de 32% d'arrêts longue durée en un an et des salariés de plus en plus jeunes concernés. Un constat préoccupant. Mais alors, que se passe-t-il? Certains diront les salariés ne veulent plus travailler. Mais les faits nous racontent une toute autre histoire. Le travail les épuise, les use et finit par les rendre malades. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les arrêts de travail sont de plus en plus liés aux troubles psychosociaux, burn-out, stress chronique, surcharge mentale. La frontière entre vie privée et vie perso s'efface et la pression augmente et les signaux d'alerte sont trop souvent ignorés. Et si le vrai problème, ce n'était pas le désengagement, mais la qualité du travail et les conditions de travail qu'on leur propose. Car oui, la réalité, c'est que la qualité du management joue un rôle important. Un manager bien formé, attentif et capable de repérer les signes d'épuisement, c'est un premier rempart contre l'absentéisme. À l'inverse, un management toxique ou mal adapté peut devenir un facteur aggravant. Alors, quelle solution pour les entreprises? Trois pistes. Repenser l'organisation du travail. Et ce que je veux dire par là, c'est équilibrer les charges, offrir de la flexibilité, respecter le droit à la déconnexion. Trop souvent, les modèles d'hier sont simplement prolongés, alors que les attentes ont profondément changé depuis la crise sanitaire. Former aussi les managers à détecter et prévenir le mal-être. Un bon manager, ce n'est pas seulement celui qui dit ce qu'il a à faire, c'est aussi un leader humain, capable d'écouter et d'accompagner. Et enfin, investir dans la prévention et l'accompagnement. Par exemple, les consultations psychologiques prises en charge, des cellules d'écoute et des programmes de gestion du stress. Nous n'y tromperons pas, les entreprises qui ont des taux d'absentéisme bas sont celles qui savent protéger et motiver leurs équipes. Et elles existent. Et pour les autres, soit on continue à dire que les salariés ne veulent plus travailler, soit on se met en marche pour mettre en place les meilleures conditions de travail. Au sommaire de cette matinale de 19h, Aglaé à l'interview comme sujet la condition de détention dans les centres de rétention administrative. Et ce sera avec Madame Léa Chaptal et Julie Lesur, toutes deux intervenantes en rétention pour la CIMADE. Côté Flash Info, ce sera Fabien. Et ensuite en Chronique Actu, ce sera François qui va nous donner des nouvelles du terroir français. En Zoom, c'est Juliette qui nous parlera de la soirée Echo en présence de Parsa Sabé. Et enfin, nous clôturons avec la chronique de Simon. On est en direct jusqu'à 20h, c'est sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Tout de suite, l'interview avec Aglaé sur la condition de détention dans les centres de rétention administrative. Bonsoir Aglaé.
Bonsoir Francesca, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Léa Chaptal et Julie Lesur. Alors, vous êtes toutes les deux juristes pour l'association La CIMADE, qui depuis 80 ans soutient politiquement et manifeste une solidarité active pour les personnes migrantes et réfugiées. Vous menez des actions pour défendre leurs droits et leur dignité. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus vous présenter et nous présenter aussi l'association, ses missions, son histoire, votre rôle?
Bonsoir.
Bonsoir. Alors nous, Léa et moi, on est juristes, comme vous l'avez dit, on était juristes au centre de rétention administrative du Ménil-Amelot, donc pour la CIMADE. La CIMADE, c'est une des associations qui intervient dans les centres de rétention administrative. Donc ça, c'est une de ses missions, intervenir dans les centres de rétention, comme on l'expliquera plus tard, pour garantir un accès aux droits pour les personnes qui sont retenues. Et l'autre mission de la CIMADE, c'est d'accueillir dans des permanences juridiques les personnes étrangères dans le but de les aider dans les démarches de régularisation. Donc, c'est à peu près 3000 bénévoles à la CIMADE et nous, on est des salariés.
Ok. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est être juriste à la CIMADE? Dans les CRA.
Alors nous, notre rôle en tant qu'intervenante juridique, c'est vraiment de, comme Julie le disait, c'était de garantir l'accès aux droits. Okay. Donc on va recevoir les personnes et un peu voir si on peut faire des recours contre les décisions qui ont été prises par le préfet. Parce que pour être dans un centre de rétention, je ne sais pas si on explique vite fait quand même ce que c'est un centre de rétention.
Oui, parce que c'était ma prochaine question, vu qu'on parle des conditions de détention. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi se caractérise un CRA?
Oui, je crois que ce sera plus audible pour expliquer pour un peu notre métier. Du coup, un centre de rétention, c'est un lieu d'enfermement administratif. Donc, c'est les autorités administratives, ce qui différencie de la prison, là où c'est les juges qui enferment. Et du coup, c'est dans le but d'expulser les personnes sans papier. Donc, pour être dans un centre de rétention, il faut avoir une mesure d'expulsion. Donc, il y a plusieurs sortes de mesures d'expulsion, mais la plus connue, c'est l'OQTF, là où on en parle beaucoup. Mmh. Et voilà, la rétention, donc l'enfermement, peut durer jusqu'à 90 jours. Voilà, donc nous, en tant qu'association, en fait, on est les seules personnes de la société civile qui peuvent entrer dans ces lieux d'enfermement et qui interviennent. Sinon, c'est que des agents de l'État. Du coup, on reçoit les personnes, on fait des recours et on essaye de former tout le dossier pour faire valoir leurs droits devant les juridictions. Donc, on va essayer d'appeler la famille. En fait, ils n'ont pas accès à leur portable, etc. Donc, on va essayer d'appeler les avocats, les hôpitaux, les associations, la famille pour réunir les dossiers. Et voilà. Et donc, faire valoir leurs droits devant les juridictions.
Et donc, on imagine que si vous devez faire ce travail, c'est parce que ces droits ne sont pas respectés dans les CRA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des conditions de détention que vous avez pu constater en travaillant dans des CRA ?
Alors, donc il faut savoir que le Ménil-Amelot, le centre de rétention dans lequel nous on intervenait, c'est celui qui se trouve à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc il est à 5 minutes en voiture des pistes de l'aéroport. Donc c'est ce qu'on appelle un méga CRA parce qu'il est... En fait, ils ont collé deux CRA de 120 places parce qu'en fait, on ne peut pas mettre plus que 120 personnes dans un CRA. Donc, ils ont créé une sorte de fiction juridique où ils ont accolé deux CRA de 120 places. Donc, c'est un méga CRA. Il y a énormément de personnes. C'est un des plus gros CRA en France. Donc, le fait qu'il soit très gros a des conséquences délétères sur l'état physique et mental de des personnes qui sont retenues parce que tous les problèmes sont aggravés, notamment il n'y a pas assez d'effectifs policiers dans les centres de rétention, ce qui cause beaucoup de problèmes, notamment par exemple sur le plan médical, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont malades, très malades, dans les centres de rétention, et donc qui ont besoin de pouvoir se rendre par exemple à l'hôpital pour des suivis médicaux. Et dont les rendez-vous sont annulés parce qu'il y a un défaut d'escorte policière. On dit donc qu'il n'y a pas assez d'effectifs policiers pour les emmener. Donc ça, par exemple, c'est un des sujets majeurs, la santé. Donc sur ce plan-là, parce que ça manque d'effectifs policiers, mais aussi parce qu'il y a aussi un manque d'effectifs de soignants. Il y a un médecin qui est présent 2 jours dans la semaine pour les 2 centres de rétention, ce qui est très peu.
Ah oui, effectivement.
Voilà. Pareil pour le psy, qui est très peu présent pour le nombre de personnes, qui a 2 demi-journées par semaine, ce qui occasionne des ruptures de traitement, ce qui occasionne beaucoup de frustration et qui aggrave les pathologies qui sont très lourdes déjà des personnes enfermées. Donc ça, c'est un des gros sujets, l'état de santé, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on peut en principe faire valoir devant les juges.
Oui.
Et qui est aujourd'hui qui était aujourd'hui difficile dans le centre de rétention à faire valoir parce qu'on avait beaucoup de mal à réunir un dossier médical pour ces personnes. Et...
Un dossier complet, du coup, avec l'avis du médecin, du psychologue.
Exactement.
Ok.
Mais juste, je me permets de préciser, donc ça, c'est pour aussi faire valoir les droits. Donc là, nous, notre rôle juridique, c'est de faire valoir les droits devant les juridictions. Mm-hmm. Maintenant, sur les conditions de rétention, on parle de rétention et pas de détention, parce que la détention, c'est la prison. Oui. Mais bon, c'est la même chose, en fait, en soi. C'est vraiment une prison qui ne dit pas son nom. Après, sur les conditions de rétention et donc sur, les violations, les conditions indignes d'enfermement, Là, on essaye de les dénoncer, mais malheureusement, on ne peut pas trop les faire valoir. Ce n'est pas dans le cœur même de notre métier.
Oui.
La CIMADE le porte.
Oui, oui.
Donc ça, c'est nous, on a été employés pour ça. Donc c'est pour montrer justement que pour les personnes malades, et l'État emprisonne de manière indistincte les personnes qui sont parents d'enfants français, les personnes malades, les personnes avec des troubles psychiatriques, les personnes qui ont vécu toute leur vie en France, etc. Donc ça, on essaye de les faire valoir devant les juridictions. Maintenant, il y a aussi toutes les conditions, donc pas assez à manger. Les personnes restent 90 jours à manger. En fait, c'est des repas comme à l'hôpital. Du coup, presque toutes les personnes perdent beaucoup de poids. C'est aussi beaucoup de stress. C'est un lieu. Tout le monde. Il y a beaucoup de sortants de prison qui disent mais c'est pire que la prison. Et en ce sens, c'est un lieu, mais vraiment de détresse psychologique. C'est pour ça que Julie parlait de psy. Là où il y a beaucoup de tentatives de suicide. Cette année, en 2024, il y a eu quand même 4 morts dans des CRA. Donc, que ce soit pour des tentatives de suicide, mais aussi parce qu'il n'y avait pas... Là, au Ménilamlot, dans le CRA dans lequel on intervenait, il y a une personne qui est décédée. Et en fait, on sait qu'elle avait un rendez-vous hôpital qui a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de policiers pour l'emmener une semaine avant. Donc voilà, c'est un peu...
Et du coup, là, tout ce qui est conditions plus matérielles, très mauvaises, ça, c'est des choses que vous constatez. Mais à part le faire remonter à la CIMADE en tant que juriste, est-ce que le droit vous laisse une possibilité d'agir contre ça? Est-ce que vous êtes un peu impuissante par rapport à ça?
On fait remonter à la CIMADE, mais on fait remonter aussi à la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui fait un rapport, qui a déjà fait des rapports sur les conditions d'enfermement en rétention. Parfois aussi, ce sont des saisines aux défenseurs des droits. On a eu parfois des liens avec des parlementaires qui sont saisis du sujet des centres de rétention. Donc, on fait remonter au maximum, on tape à beaucoup de portes. Cependant, le fait que ce soit un méga CRA, le fait que, pour plein de raisons, les conditions ne s'améliorent pas.
Oui.
Il y a un autre sujet qui est un vrai sujet au Ménilamlot, mais aussi dans beaucoup de CRA, c'est le recours à l'isolement. Donc l'isolement, c'est une petite salle de quelques mètres carrés dans lesquelles les personnes sont enfermées pour des raisons normalement de sécurité, quand elles peuvent faire du mal à autrui ou à elles-mêmes. Ça aggrave les conditions de rétention parce que ces personnes sont souvent enfermées très longtemps. Elles n'ont pas accès facilement à nos bureaux, au bureau de la CIMADE. En fait, c'est très compliqué l'isolement parce que c'est encadré par une circulaire seulement qui date de 2010 et qui n'est pas très claire sur comment et combien de temps on peut enfermer une personne à l'isolement. C'est un vrai sujet que la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a aussi dénoncé.
C'est un peu le mitard de la prison. Et du coup, en fait, là, c'est vraiment utilisé à des fins répressives, on le voit bien. Donc, il y a un recours massif à la mise à l'isolement. Mais, par exemple, on le voit pour... il va y avoir un vol le lendemain et ils vont enfermer les personnes la veille pour éviter qu'elles se battent contre leur expulsion. Il va y avoir aussi des personnes qui ont été enfermées plus de 3 jours. Des fois, c'est des enfermements de 24 heures, pieds et mains liés, scotchés. Donc, on nous a rapporté vraiment pas mal de violences au sein de l'isolement. Donc, ça, c'est vraiment un truc. Parce qu'une circulaire, c'est pas une loi, donc c'est pas vraiment encadré. Donc, il y a des critères, mais qui sont pas forcément respectés. Parce que c'est pas une loi.
Parce que c'est pas. Oui, il y a pas de loi, c'est ça. Ouais. C'est pas assez clair.
Et du coup, on fait sur les recours devant les juridictions, mais tout ce qu'on disait avec le défenseur des droits, les parlementaires, etc., c'est vraiment du plaidoyer pour essayer que ça change Voilà. Et du coup, ça, on a quand même beaucoup parlé de ça. Mais bon, on ne sait pas ce qui va en être sur une peut-être régularisation de l'isolement. Mais bon.
Oui, c'est des choses que vous ne pouvez pas prédire, j'imagine. Non. Et personne ne le sait. J'avais aussi une autre question par rapport... Vous expliquez que les personnes en CRA sont des personnes en situation irrégulière. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a des types de situations irrégulières plus largement représentées que d'autres, ou ça peut vraiment être n'importe quelle personne arrêtée qui peut aller en CRA? Est-ce que il y a des choix qui sont faits par l'administration sur les situations irrégulières?
Le panel est quand même très large. Oui. Les personnes qu'on retrouve en centre de rétention, les profils sont très, très variés, très diversifiés. Alors après, c'est vrai qu'il y avait une volonté depuis Darmanin de quand même mettre en centre de rétention beaucoup plus les personnes qui sortent de prison pour participer à cet amalgame étranger délinquant. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un effet systématique de la mise en rétention après le passage par la prison. Mais sinon, le profil est très large des personnes. Parce qu'en fait, un simple contrôle d'identité, de papier dans la rue peut amener à une vérification d'identité, puis du coup à un placement en rétention.
À une OQTF, puis un placement.
Exactement.
Okay. Alors, on va juste revenir après une petite pause musicale. Et on écoute Assinine avec le titre 100 ans.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors aujourd'hui, dans un contexte post-loi asile et immigration qui a été promulguée en janvier 2024, les expulsions sont facilitées sous le prétexte de la menace à l'ordre public, entre guillemets, qui est un concept arbitraire. Ce concept s'est devenu un fondement du placement en CRA et ça mène à la mise à l'écart volontaire d'individus sous un prétexte large et n'ayant pas de définition juridique claire, comme vous le disiez juste avant. Alors, est-ce que, de façon assez générale, quelles ont été les conséquences de cette loi immigration sur le plan de la rétention administrative ?
Eh bien, vous le disiez, la loi Darmanin, donc de janvier 2024, elle est venue complexifier encore le droit des étrangers, notamment la rétention. Il faut savoir que c'est la 29e loi depuis 1981 qui vient régir le droit des étrangers. Donc ça montre déjà une obsession quand même pour ce sujet. Et surtout, ça rajoute de la technicité au droit. Concrètement, ça a changé beaucoup pour la rétention parce qu'avant cette loi, il y avait des catégories de personnes qu'on appelait protégées contre une décision d'éloignement au QTF. Il y avait pas mal de catégories, elles ont toutes été supprimées, sauf les mineurs. Donc en fait, c'est interdit de mettre un mineur en centre de rétention, mais c'est plus interdit de placer en rétention, d'émettre une OQTF contre les parents d'enfants français, les personnes qui ont résidé depuis un certain nombre d'années sur le territoire régulièrement, les personnes qui sont conjoints d'enfants, conjoints de personnes françaises. Les personnes malades, donc toutes ces catégories de personnes-là. Donc qu'est-ce que ça a changé en CRA ? Ça voulait dire, donc CRA, centre de rétention administrative. Ce que ça a changé, c'était que quand nous on rencontrait ces profils, on pouvait faire valoir ces situations-là devant les juges, devant notamment le juge administratif. Et donc le juge administratif devait évaluer la situation de la personne et ça permettait d'annuler les OQTF. Aujourd'hui, ces personnes peuvent totalement être placées en centre de rétention. Et on a pu faire le constat que beaucoup de ces personnes-là se retrouvaient en rétention et donc étaient expulsées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas expulsées avant la loi Darmanin, mais c'est juste que c'était illégal avant.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et aussi, ça ne veut pas dire que le juge administratif, il annule plus les OQTF.
D'accord.
Parce que le juge administratif va quand même regarder toute la vie, le lien de la personne avec la France, ses attaches familiales. Donc si la personne a des enfants, si elle s'occupe de ses enfants, si elle travaille, etc. Donc généralement, le juge administratif va quand même regarder la situation des gens, même si c'est plus une catégorie protégée au sens de la loi.
Et une deuxième modification importante de cette loi Darmanin, c'est la notion de menace à l'ordre public qui a été réinjectée dans cette loi, ce qui veut dire que ça a prolongé la rétention des personnes, parce qu'en fait c'est 3 mois maximum de rétention, mais pendant ces 3 mois, le juge des libertés et de la détention, qu'on appelle JLD, vérifie à 4 reprises sur 3 mois les conditions, vérifie la pertinence de garder en rétention une personne retenue. Et les critères qui étaient examinés au bout de la 3e fois et de la 4e fois permettaient avant beaucoup plus de libération, parce qu'il fallait que la préfecture puisse démontrer, arriver à cette fin de rétention, que la personne allait effectivement être expulsée, par exemple en obtenant un laissez-passer consulaire. Aujourd'hui, avec la loi Darmanin, ils ont ajouté à la fin de la rétention que le juge des libertés de la détention pouvait maintenir en rétention ces personnes seulement si elles représentaient ce qu'on appelle une menace à l'ordre public. Sauf que la menace à l'ordre public, c'est une notion qui est extrêmement floue en droit et qui permet de caractériser que tout le monde est une menace à l'ordre public.
Oui, qui a un côté arbitraire. Surtout que c'est décidé par les préfectures, c'est ça ?
D'accord. C'est ça.
Et par les juges.
Et par les juges.
Ouais. Et en fait, c'est pas une notion définie, donc effectivement, ils englobent. Enfin, pas tout le monde ne peut pas rentrer non plus dedans, mais ça peut être une garde à vue sans suite, donc vraiment, enfin classée sans suite, donc il y a aucune condamnation qui va permettre de caractériser la menace à l'ordre public pour les préfectures ou les juges de temps en temps, et ça rentre dans un peu la criminalisation des personnes étrangères et tout ce discours ambiant sur le besoin d'expulsion de ces personnes. Et notamment, en ce moment même, il y a une proposition de loi faite par notre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, Sur l'allongement de la rétention à 210 jours et toujours fondé sur cette notion de menace à l'ordre public. Donc ça ferait presque, enfin plus de doubler, donc ça passerait à 7 mois. Sachant que nous, 3 mois déjà, on voit les effets délétères. Et comme on disait aussi avant, en fait, au bout d'un certain temps, il y a plus. On a vu que s'il y a expulsion, ça se fait dans les premiers jours. Donc en fait, il n'y a aucune corrélation entre durée de la rétention, durée de l'enfermement et l'expulsion elle-même. Donc en fait, ça ne fait qu'augmenter, donc ça devient un peu une sorte de prison en fait, mais administrative parce que... Ouais.
Oui, et du coup, si on reprend ce que vous avez dit avant, ça va encore plus détériorer les conditions. On imagine qu'ils ne vont pas forcément rajouter des médecins, rajouter des psychologues. Et donc en fait ça va pas du tout améliorer les conditions dans les CRA.
Surtout que c'est un constat qui a déjà été fait parce que la rétention ça n'a pas toujours été 90 jours, dans le passé ça a été 7 jours, 45 jours, ensuite 90 jours et le constat avait déjà été fait que allonger la durée de rétention, donc comme disait Léa, ne permet pas d'expulser davantage et en plus aggrave les conditions de rétention quoi.
Sur la santé des gens.
Voilà. Donc voilà, c'est juste une énième loi, si elle passe, qui vient encore criminaliser les étrangers.
Et je voulais revenir aussi sur les personnes détenues en CRA qui elles-mêmes dénoncent les violations de droits et les violences en général donc dans les CRA. Des grèves de la faim ont lieu de manière récurrente dans différents CRA en France. Certains détenus parviennent à faire remonter aux médias qui les soutiennent des témoignages des très mauvaises conditions de leur détention. Est-ce que vous, en tant que personne en contact avec ces détenus, donc du coup, non, c'est pas des détenus, il y a une différence, excusez-moi, c'est retenu, vous avez agi est-ce que donc, vous avez vu des grèves de la faim, par exemple, ou des mobilisations qui provenaient des retenues. Et est-ce que ça a permis des changements ou en fait, ça n'a aucune conséquence?
Alors, il y en a régulièrement, en vrai.
Oui.
Des grèves de la faim, moi, là, je pense à une personne qui était réfugiée, qui a eu le statut de réfugiée, donc forcément, elle ne pouvait pas être placée en rétention. Malheureusement, même quand on a eu la preuve de statut de réfugié, l'administration et le juge des libertés et de la détention ne l'a pas libéré. De là, il a commencé à faire une grève de la faim et qui a été totalement ignorée par l'administration. Et en fait, la personne en est venue à dire laissez-moi rentrer dans mon pays, même si je meurs là-bas, je préfère être là-bas que ici. Mmh. Et en fait, il y a. Des fois, ça sort dans les médias, mais ça change rien sur leur situation.
Oui, et ça reste invisibilisé aussi, même dans les médias, j'imagine.
Ah oui.
Oh oui.
Et pareil, après la mort, on a parlé du décès qui s'est passé en octobre. Il y a eu beaucoup de mobilisation après, parce que c'était une période aussi là où il y avait beaucoup de tentatives de suicide. Et les personnes ont refusé d'aller manger, d'aller au réfectoire et de retourner dans leur bâtiment. Et en fait, y a eu beaucoup de troubles, mais personne n'en a parlé et ça se calme vite aussi les personnes. C'est très dur en fait pour elles, même si on a essayé d'en parler aux médias, etc., il n'y a rien qui change.
Oui, et puis on imagine que si les conditions de détention sont déjà très difficiles, faire en plus une grève de la faim qui ne va pas être écoutée, qui est prise en compte dans un contexte psychologiquement très difficile... Ça doit être difficile à tenir, du coup. Et alors, je voulais vraiment vous remercier pour cette interview et pour votre présence. Et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Tout de suite, le Flash Info avec Fabien.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour. Garder de l'art dans le métro, en parallèle de la rénovation. En parallèle de la rénovation, excusez-moi, de la ligne 11, trois mosaïques représentant Georges Brassens et des lilas pourraient disparaître au sein de la station de métro Porte des Lilas. La station a des problèmes d'infiltration par endroits, une opération de réfection est en cours. Dans une pétition lancée l'été dernier, Racine du 93 souligne à quel point ses œuvres constituent un rarissime exemple de cette technique sur les murs du métro parisien, associée au souvenir du chanteur et poète anarchiste Georges Brassens. La pétition se retrouve en ligne sur mesopinions.com. Vous cherchez Mosaïque Georges Brassens. La vie naît parfois d'un drame, celui de la voiture de Tom encastrée dans un poteau, d'heures passées aux urgences neurologiques, de lésions irréversibles. Quand l'étudiant en urbanisme de 23 ans est décédé, la nouvelle a été brutale à encaisser pour ses parents. Au bout de quelques minutes, alors que le choc n'a pas laissé place au deuil, intervient une question douloureuse et intime, était-il donneur d'organes ? Il faut se décider rapidement tant que les organes fonctionnent encore et penser à la liste interminable des personnes en attente d'une greffe. Tom donnait régulièrement son sang, était décrit comme généreux. Les parents de Tom autorisent donc les médecins à prélever tous ses organes vitaux. Positionnez-vous de votre vivant sur le don d'organes. En effet, le taux de refus est en augmentation et les proches refusent souvent lorsqu'ils ignorent le souhait du défunt. Alors s'il vous plaît, ayez une discussion à votre famille avec vos amis, il suffit d'en parler. Alors qu'Enrico Macias se produisait sur la scène du Dôme de Paris au Palais des Sports, une odeur de boule puante a envahi la salle. Deux jeunes femmes ont déversé un produit pestilentiel avant de fuir, échappant à la sécurité. Les faits se seraient déroulés juste avant l'entracte du show, vers 22h30, poussant des spectateurs à quitter les lieux et la direction de la salle à ouvrir des portes menant à l'extérieur par souci d'aération. Une enquête pour entrave concertée avec menace à l'exercice de la liberté de création artistique a été ouverte par le parquet de Paris. Et enfin, pour terminer, la Belgique, ancienne puissance coloniale à la fois de la République du Congo et du Rwanda, a été l'un des pays les plus critiques du Rwanda depuis que le mouvement anti-gouvernemental M23 a lancé en décembre une offensive éclair dans l'est de la République du Congo. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Avec effet immédiat, a déclaré le ministère rwandais des Affaires étrangères. Une décision liée, selon Kiwagli, aux tentatives pitoyables de Bruxelles pour maintenir ses illusions néocolonialistes. La Belgique a regretté la décision disproportionnée du Rwanda avant de rompre ses relations diplomatiques et va à son tour déclarer personne non grata les diplomates rwandais.
TEDAC avec le titre « Bonjour monsieur et au revoir madame ».
Ça fait quoi ?
Quoi ?
le voile se lève, les goûts courts. Le vent souffle sur la braise, élève le jour. D'un air pur et sans égard, il se dresse dans le brouillard, s'adresse à toutes celles au placard de le rejoindre au fond du doute. Elle s'immisce dans la masse, performe et casse les idées normes qui les tracassent. Définit seules les conjonctures, des figures cœurs et les satures. Contre insoumis, contre la vie, brise les lois de la nature.
On vient donc d'écouter TEDAC avec le titre « Bonjour monsieur, au revoir madame ». Vous écoutez la matinale de 19h et il est 19h37. Tout de suite, la chronique de François.
La matinale de 19h.
Alors François, quelles nouvelles pour les nouveaux terroirs ?
Eh bien, les chèvres de Sainte-Maure-de-Touraine sont en excellente santé, Francesca, je vous remercie. Pardon, j'insiste, toute la population à sabots, cornes et barbichettes, typiquement reconnaissable des troupeaux chevriers de la région Touraine, tient actuellement une forme olympique, le poil brossé, l'œil alerte et le pied généreux. Les chèvres de Sainte-Maure, je le répète, passent toutes de merveilleux moments, depuis Saint-Martin-des-Bois au nord, en passant par l'ouest de Selles-sur-Cher, jusqu'à la frontière sud de Tournon-Saint-Martin, limite géographique de l'AOP Sainte-Maure-de-Touraine. Passé Tournon, la bonne santé des chèvres nous intéresse moins, voire même, il se murmure, on rapporte à bas bruit que potentiellement, tout juste passer cette limite, il ne faut rien attendre des cheptels caprins. Mais je ne vais pas m'engager ici sur le terrain glissant de la délation. Depuis plus de 20 ans, la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine, région Centre-Val-de-Loire, actuellement dirigée par Michel Champigny, porte un projet, que dis-je, une ambition artistique. L'édification d'une gigantesque sculpture de chèvre, nommée Chèvre Monumentale, de plus de 7 mètres de haut et 5 mètres de large, au bord de l'autoroute A10. Le maire de Sainte-Maure s'est engagé à verser 50 000 euros, ce qui fait grosso modo 12 500 bûches de chèvre à vue de nez, car on m'assure qu'on reconnaît les vrais tourangeaux à leur discrète mais surprenante habileté à compter en bûches cendrées. Les curieux peuvent d'ores et déjà admirer le modèle réduit de la sculpture sur la table ronde du bureau du maire, ce qui empêche toute réunion à tant soit peu sérieuse vu que la chèvre posée sur la table atteint déjà son bon mètre de haut. Cette sculpture gigantesque a pour objectif, selon les mots du maire, de vanter les mérites du fromage de chèvre à qui fait la fierté du terroir tourangeau. Tout Français majeur, titulaire du permis de conduire, d'une voiture 5 places et d'une famille qui l'emmène régulièrement en vacances à La Rochelle par l'autoroute A10, devrait ainsi être pris à l'approche de la chèvre monumentale d'une irrépressible envie de faire demi-tour au frein à main, trouver la première sortie, se ruer dans une ancienne alimentaire pour s'y procurer 250 grammes de bonheur fromager. Après quoi, il oubliera ses vacances à La Rochelle, s'établira dans la région, ne se nourrira plus que de chèvres à houpée, vivra 100 ans, sera cité dans le journal, enfin quoi, réussira sa vie. Or, pour que ce miracle au lait cru s'accomplisse, il manque encore 350 000 euros au sculpteur et à la commune. La région s'est engagée à financer plus d'un tiers de la sculpture jusqu'en haut des mamelles, pour vous faire une idée, à hauteur de 97 000 euros. Le maire, Michel Champigny, espère convaincre le département, l'industriel Vinci, sur l'enrobé duquel s'aliveront les automobilistes à l'approche de la sculpture, et pourquoi pas l'État, qui, s'il coupe à bras raccourcis dans les budgets de la santé ou de l'éducation, n'osera pas, j'en suis convaincu, se mettre à dos les partisans nombreux du Sainte-Maure, qu'on dit excellent avec un filet d'huile d'olive et un tour de moulin à poivre. Mais si la commune y va de ses 50 000 euros, prélevés sur le budget voirie de l'année, au grand plaisir de son opposition politique, qui ne manquera pas de crier à la démission du fonds des nids de poules municipaux, du côté des producteurs de fromage, ça coince. Le président de l'AOP Sainte-Maure refuse de mettre la main à la poche. Benoît Limousin, lui-même éleveur de chèvres, ne s'étend pas sur la santé financière de son appellation d'origine protégée. Mais il révèle tout de même la raison profonde d'un refus qui pourrait étonner au regard des retombées prévues pour ses producteurs en cas d'installation de la sculpture. Selon M. Limousin, le design de la chèvre géante est en cause. Il la trouve, je cite France Bleu, maigrie. Oui, maigri, comme le commissaire. Ici, nous entrons dans le merveilleux, car que la chèvre fût rose, verte à pois jaune, en papier crépon, en céramique et plâtre, comme celle de Picasso, qu'on la représente à l'envers, avec des cornes de 9 mètres ou à plumes plutôt qu'à poils, monsieur Limousin ne s'en offusquerait pas. Qu'on la produise affublée d'un écriteau géant, où serait inscrit Touraine libre, qu'il ne sourcirait qu'à peine, comprenant pragmatique et plein de bon sens que l'art est politique et qu'il ne lui appartient pas de juger des combats des sculpteurs. Mais que la chèvre de la OP Sainte-Maure de Touraine apparaisse du haut de ses 7 mètres sur l'autoroute A10 avec les côtes visibles, alors ça, il faudra lui passer sur le corps. Je vous rends l'antenne et je vous remercie de m'avoir écouté, Francesca.
Merci beaucoup, François. On en sait un petit peu plus, merci beaucoup. Et tout de suite, c'est le Zoom, c'est avec Juliette.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Farsa Sabé, bonsoir, merci d'être avec nous. Tu es chanteur, mais aussi compositeur, vidéaste et photographe. Et tu joues ce mercredi, donc 19 mars, au Hasard Ludique avec le projet Echo. Donc j'ai plusieurs questions te concernant déjà et aussi sur la soirée de mercredi où Nina, tu pourras aussi nous répondre. Alors, vu que tu as un côté un peu touche-à-tout, est-ce qu'il y a chez toi un parcours plutôt autodidacte ?
Oui, j'ai tout appris moi-même. Après, le côté touche-à-tout, je pense que ça existe chez pas mal d'artistes aujourd'hui. On doit tous se débrouiller pour faire tout parce que, bien évidemment, ça demande un budget, etc. Donc, on essaie de se démerder et trouver ce qu'on veut. Et aussi voilà, c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de gens que je connais aussi qui sont autodidactes. Donc, c'est mon cas aussi. Oui, j'ai tout appris moi-même pour répondre à la question.
Ok. Donc, est-ce que pour toi, l'art peut être justement complètement autodidacte, ou est-ce que tu conseillerais aux jeunes artistes qui se lancent de se former, que ce soit dans des écoles ou auprès de professionnels de la musique? Ça d'après toi, est-ce que c'est pas utile?
Ça dépend de l'objectif de chacun. Je pense que tout est possible. Donc si on a un parcours qui passe par c'est un parcours scolaire, bien évidemment ça pourrait marcher aussi. S'il y a un parcours autodidacte, ça pourrait marcher aussi. On a beaucoup de preuves de tous les parcours qui ont déjà fonctionné, donc franchement, je ne peux pas dire non, il y en a un qui ne va pas fonctionner, etc. Donc oui, si vous voulez vous lancer, juste lancez-vous et le reste, après, ça viendra.
Ok, d'accord. Et tu as eu quelqu'un, peut-être un pote à toi qui savait faire, des logiciels
Oui, tout à fait. Moi, on m'a beaucoup aidé pour apprendre. J'étais toujours à côté d'un ami à moi qui faisait, et du coup, ça m'a fait apprendre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire mes propres trucs et j'ai commencé à avancer de mon côté. Et puis... Puis voilà, aujourd'hui, encore une fois, j'apprends des choses à côté des autres personnes qui m'aident à avancer. Donc ça se fait, à mon avis, jamais tout seul.
Ok, cool. Bah justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que tu travailles aujourd'hui seul? Parce que du coup, il y a ton nom. Ou est-ce que tu es entouré par une équipe? Et si oui, donc quel rôle a ton équipe dans ton processus artistique? Avec de qui tu t'entoures?
Les premières idées, la plupart du temps, ça vient de ce que je fais dans ma chambre. Ou enfin, peu importe où. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire ça avec mes meilleurs amis. Donc, je suis accompagné avec deux de mes meilleurs amis qui m'accompagnent sur scène, Tony et Victor. Et puis, notre manager, c'est un très bon pote aussi. Donc, on est vraiment entre potes, en fait. On s'éclate. Et du coup, dans le processus de création, les premières idées, ça vient de moi. Et ce qui est bien, c'est que chacun a ses projets. Donc en fait, on s'apporte chacun des touches sur le projet de l'autre. Donc ils savent quand c'est mon projet sur lequel on bosse, c'est avec ma direction. Et on sait que si on bosse par exemple sur le projet de Tony ou Victor, c'est avec sa direction. Donc on est bien entouré aujourd'hui et je suis très ravi.
Ok, génial. Donc ça, c'est aussi tes musiciens, je veux dire, quand tu joues en concert, ils t'accompagnent aussi sur scène.
Exactement.
Oh, chouette. Effectivement, ça a l'air cool. Du coup, moi j'ai écouté ton EP Fantasyland, oui, qui est sorti en décembre 2024. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à définir un style précis. Comment est-ce que tu décrirais, toi, ton style musical?
Moi, je dirais aujourd'hui la pop. Après, c'est pour ceux qui dénichent un peu plus, c'est la pop alternative mélangée avec du R&B alternatif. Avec des touches. Il y a plein d'influences, en fait, aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui se casse dans un seul style. Ouais. Mais aujourd'hui, pour que ça soit plus compréhensible et digeste pour les autres, je dirais c'est la pop. Okay. La base des choses. Et puis Fantasyland, c'est un EP qui devait pas avoir lieu, mais c'était un peu des sons que j'avais fait, que je kiffais, et je voulais même pas me lancer. Il y a quelqu'un qui m'a harcelé, qui m'a dit mets les sons les plateformes.
Ouais, positivement, harcelé positivement. Du coup.
Oui, positivement, totalement. Oui, c'était un pote à moi et il a dit vas-y, pourquoi tu t'en lances pas? Je fais bah oui, pourquoi pas. Et voilà, aujourd'hui on a un EP Et aujourd'hui, on va se présenter à Paris pour la première fois dans 2 jours.
Ah, Paris, c'est la première fois. Parce que du coup, tu joues principalement à Reims en ce moment, c'est ça?
Bah, j'ai fait quelques concerts à Reims, parce que c'est là où j'habite, mais on passe toujours par la scène locale, forcément. Et oui, j'ai un groupe aussi à côté. Mais avec mon groupe, on était déjà passé à Paris. C'était un projet personnel aussi. Mais là, c'est la première fois où je montre vraiment à 100%. Donc c'est la première fois en plus que je fais ça à 100% avec mes meilleurs amis. Donc c'est toujours cool.
Bah, c'est trop cool. J'espère que ça va être un grand succès, mais je pense. La soirée du coup du 19 mars, elle est portée sur le thème de l'écho. C'est une soirée qui porte bien son nom donc. Et j'ai lu cette phrase dans le dossier de presse. « Quand les frontières deviennent des ponts, les échos sont plus impactants et résonnants. Comment imaginer des futurs responsables et sans frontières ?» Donc c'est à toi Nina que je vais m'adresser. Est-ce que tu peux présenter un peu les étudiants de l'ICAR? Qu'est-ce que c'est que votre école? Est-ce que c'est un collectif? Une classe de jeunes? Je t'en prie.
Du coup, la soirée Échos, elle s'inscrit dans un projet de fin d'études pour la classe de MBA Musique. Et donc, on avait carte blanche pour créer un nouveau concept qui soit innovant, qui puisse se pérenniser dans le temps aussi, soit innovant. Et donc, on a réfléchi tous ensemble à qu'est-ce qui nous ressemblait, et aussi la société actuelle. Et donc, on a voulu défendre des valeurs qui soient responsables, notamment vis-à-vis de l'environnement, de discrimination aussi, et plus d'un point de vue artistique, donc de casser les frontières entre les différents genres musicaux. Et donc, pour revenir à ce qu'elle disait par ça, finalement, de ne pas rester dans une case particulière et de proposer une soirée qui mette en valeur finalement cette fusion-là.
Ok, et du coup, je veux dire concrètement, quelles actions vous menez, on va dire, pour favoriser un avenir responsable et sans frontières, justement?
Du coup, on a aussi rédigé une charte RSO et puis aussi, on va, lors de la soirée, diffuser aussi des messages par rapport à tout ce qui est VSS. Il y aura des personnes présentes aussi. Et aussi, on a organisé une cagnotte en soutien à l'international. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, ils sont confrontés à quelques difficultés. Donc,
okay.
Pour soutenir les projets aussi des autres.
Ok, super. Je vais te poser la même question à toi, du coup, par ça. Comment toi, en tant qu'artiste, tu participes? Quelles actions tu mènes en tant qu'artiste
dans la vie de tous les jours ou pour les soirées?
Par exemple, dans la vie de tous les jours, si tu te considères artiste dès que tu te réveilles le matin et que tu t'endors le soir, mais ouais. Est-ce que, parce que en fait, là, je trouve que quand j'ai lu le dossier de presse, je me suis dit, ok, c'est une soirée qui est quand même assez engagée politiquement, et du coup, je me suis dit, ça ne doit pas être anodin que toi tu sois invité.
J'espère que ça joue dedans. En tout cas, je suis. Pour moi, c'est une folie d'être à Paris et jouer dans une salle sold out dans 2 jours avec ma musique. Il y a 10 ans, il y a 11 ans, quand je suis arrivé en France, j'étais un réfugié. Et du coup, c'est toujours fou de me réveiller et dire que je fais la musique. Et si je peux faire entendre la voix de ceux qui en ont besoin, c'est avec grand plaisir. Et si l'opportunité se présente, c'est un objectif de vie aussi d'aider ceux qui sont aujourd'hui à ma place d'il y a 11 ans et qui sont dans la rue qui rencontrent d'autres difficultés, que ce soit par rapport à la guerre ou autre chose. Donc, c'est un plaisir de participer dans une soirée qui est engagée aussi. Donc j'espère que je puisse remplir mon rôle en tant qu'artiste.
Bah, génial. Ok. Et d'après toi, est-ce que tu penses que l'art doit avant tout être engagé ou pas?
Ça dépend de chaque personne. En fait, on ne peut pas décider pour un sujet aussi majeur aujourd'hui. On ne peut pas mettre des mots en mode « il faut ça » ou « il faut ci ». À partir du moment où on met des « il faut », justement, on met ça dans une cage. Donc, je pense que ça dépend de chacun. S'il y a des gens qui ne veulent pas avoir un message ou un mot à dire dans leur art, que ça ne soit pas engagé, justement, ça va être ça. Et c'est très bien pour eux. Et si, justement, il y a un message, je pense que ça va perdurer plus longtemps. Et ça va être plus, à mon avis, intemporel. Donc, ça dépendra des gens.
Ok, super. J'ai une dernière question. Quel est ton lien avec les étudiants, justement, de l'ICAR? Comment vous êtes rencontrés?
Moi, j'ai mon manager, du coup, qui est étudiant à l'ICAR. C'est lui qui nous a présenté et qui nous a vendu très, très bien. Du coup, on a été acceptés dans la soirée parmi les autres artistes magnifiques qui vont passer aussi.
Bon, bah, super. J'espère que vous aurez plein, plein, plein de monde. C'est sold out, c'est ça?
Oui, ça sert. Oui.
Bon, voilà, ça sert plus à rien de faire de la promo.
Allez, quand même, écoutez les artistes.
Bien sûr, oui. Ça s'appelle, alors, du coup, c'est la soirée Echo, c'est le 19 mars et ça se passe, du coup, au hasard ludique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Et
par ça, Sabé, merci beaucoup.
Merci beaucoup. D'ailleurs, tout de suite, on va écouter par ça, Sabé, Love So I Can Never Hurt.
Leave so I can hear myself. I've been thinking about you lately. Even though I promised that I won't be crazy, how everything changes. We are strangers, that's how we should be. Crazy you share my dreams. That's where I keep you, but you won't leave me. Crazy that I let you hear what I was dreaming. And you just left me. This way. I should cherish it, but I just let you go. I should regret it. This is part of me, don't want you back. This part just wants you. Cause you know that it wasn't easy to live with emotions.
Nous venons d'écouter donc Parsa Sabé, Live So I Can Never Hurt. Et tout de suite, c'est la chronique de Simon.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir Simon.
Bonsoir Francesca. C'est bon, le micro n'est pas renversé?
Non, c'est...
Mesdames et messieurs, dames. Aujourd'hui est un grand jour pour le verre. Sauf pour le Vert de Saint-Étienne, dont des groupes de supporters ont été dissous par le gouvernement. Ce n'est pas non plus un grand jour pour le Vert de gouvernement. Parce qu'entre le refus de Bayrou de revenir sur la réforme des retraites et l'effort de guerre qui fait que les autres du gouvernement sont en branle-haut de con haut, non, en branle-bas d'intellectuel bas, qu'il faut faire des économies dans une économie déjà austéritaire, moi j'aimerais pas être ministre de Bayrou, c'est comme si j'allais voir quelqu'un qui avait pas de dentifrice et que là j'arrive et je lui dis « Eh ben monsieur, on va te prendre la brosse à dents !» Non mais c'est pour dire que... Autant dire que quand on fait partie du bloc central extrême droit, il y a de quoi voir le verre à moitié vide. Parce que c'est une chronique sur le verre. En revanche, il y en a d'autres pour qui le verre est à moitié alcoolique. Et l'autre moitié est celtique parce que c'est la Saint-Patrick. L'occasion pour moi que ce soit un plaisir d'avoir l'immense honneur de fêter une bonne fête à tous les Patrick. Permettez-moi de leur souhaiter à tous sans exception. Bonne fête ainsi à Patrick Cohen. Bonne fête à Patrick Timsit. Bonne fête aussi à Patrick Préjean, la voix de Potiron dans Oui Oui, bien sûr, qui est bien connu. Ou encore, bien sûr, bonne fête à Patrick Fiori, le célèbre fromager, à qui on doit le tout aussi célèbre fromage Fiori Laté. Mais aussi, bonne fête à Patrick l'étoile de mer. Et même... alerte, gros bit 19. Pour les 5 ans du adromanovirus, restez sur vos gardes et continuez d'appliquer les gestes barrières. Faites des jeux de mots pourris dans votre coude. Allez voir un médecin si vous faites trop de comiques de répétition. Mettez du gel hydroalcoolique après avoir touché le livre Blague de merde, le top 200 Paris aux éditions. Tut tut. C'est tout ce que je viens de dire est vrai. Allez voir un médecin si vous faites trop de comiques de répétition. Évitez le contact avec des personnes trop bon public. Allez voir un médecin si vous faites trop de comiques de répétition. Ensemble, 5 ans après, protégeons-nous du gros bit 19 ensemble. Ceci est un message du ministère du stand-up.
Allez.
Mais ce 17 mars, sans transition, ce 17 mars est un grand jour pour le vert, mais uniquement pour les Patrick. Parce que pour les personnes dont le vert est la couleur, par exemple, de l'écologie, le 17 mars n'est pas une journée facile. Pourtant, ces derniers jours, y'elles avaient le vent en poulpe. Le parti, les écologistes, avait fait voter fin février une loi visant à interdire les polluants éternels, à savoir les produits contenant des substances per- et polyphyto... des substances per- et polyfluoroalkylées, les produits contenant des PFAS. Mais c'était sans compter l'extrême droite qui a tenté d'amender la loi dans sa grande tradition consistant à soutenir les industries polluantes. Qui ne se souvient pas de l'intervention de ce député RN clamant, que dis-je, pleurant ces mots, je cite, ouais, 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 où es-tu Jean-Marie, où es-tu, comment vais-je prendre des décisions maintenant que je ne pourrai plus jouer à pie ou face? C'est simple, dès que je vais au restaurant italien et que je ne sais pas choisir entre pâtes et pizza, je joue à pie ou face avec une grosse poêle en téflon. Quel que soit le résultat, ça me ramène à la bonne décision. Bon, après, j'ai plus de pouce parce que ça m'a dit quel pouce. Mais heureusement, il me reste un deuxième pour jouer à pie ou face, pour savoir quelle pâte ou quelle pizza je dois prendre parce que... Un témoignage qui fait que les poêles anti-adhésives ne seront pas interdites, de même que les emballages alimentaires ou les mousses anti-incendie. Heureusement, malgré ces non-interdictions arrachées par l'extrême droite, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau des pâtes. Parce que malgré ces points de vigilance à avoir à l'avenir, ça reste une victoire. Et on en a bien besoin de victoire. 5 ans donc après le début du premier confinement qui rapporte le média en ligne Reporter, aura été quand même un sacré coup de frein pour les mouvements qui commençaient à se développer pour la défense du climat. Alors profitons de ce 17 mars pour remettre du verre partout dans les rues avec une grosse pinte de Guinness à la main, du moment que vous évitez de les renverser sur les micros de la radio, parce que sinon, comment vous pourrez m'entendre souhaiter une bonne fête pleine d'écologie à Patrick
Merci beaucoup Simon.
Bravo.
Merci beaucoup. Alors la matinale c'est terminé. Avant de vous quitter, je vous rappelle que ce vendredi 21 mars, votre radio fête l'arrivée du printemps au nouveau Magnolia à partir de 20h et nous espérons vous y retrouver très nombreux, nombreuses. C'est la fin. Donc c'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Merci à Fabien pour son flash info et aussi aux chroniqueurs François et Simon. Merci Juliette pour le zoom. Merci Gabriel pour la réalisation, Maïwenn à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts ou la matinale-rcp sur Instagram. Très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.